je m'installe et je le dis, voilà. Superbe, voilà. Jésus révélé dans nos épreuves. Les épreuves et la souffrance qui en résulte font partie de cette vie ici-bas. On se retrouve tous à un moment ou à un autre, justement dans une situation d'épreuve, de test, de souffrance. Et les personnes qui traversent ce type de situation se retrouvent entourées de besoins. Des besoins d'explication, souvent résumés par la question « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Un deuil à traverser, un licenciement, un célibat non désiré qui se prolonge. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Est-ce qui en résulte la perte d'un proche, le sentiment d'abandon qui s'y attache. Un besoin de retrouver la paix après la colère. Et les injustices de la guerre, les inégalités économiques inexplicables. Et par-dessus tout, le besoin, je crois, de ne plus être seul. La souffrance a la capacité, comme peut-être rien d'autre, ici-bas, de nous isoler, de nous rendre seuls. Et le texte d'aujourd'hui que je vous propose raconte l'histoire d'une épreuve, et une épreuve extrêmement difficile, et la manière que Jésus a de rencontrer les besoins des personnes qui en souffrent. Par ses paroles, par ses actions, Jésus ne les laisse pas seuls. Le tableau, peut-être ici de Van Gogh, vous l'aurez peut-être reconnu, illustre cette histoire, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. On est dans la dernière année de ministère de Jésus, et il reçoit un message de la part de deux amis, deux sœurs, Marthe et Marie, à propos de leur frère. « Celui que tu aimes est malade. » Lazare va finalement mourir après que Jésus a attendu deux jours avant de se rendre à Béthanie, le village de la fratrie, juste à côté de Jérusalem. Et c'est là qu'on débute notre histoire, qui montre Jésus de nouveau donc interagir successivement avec les trois personnages, Marthe, puis Marie, puis Lazare. Et je vous propose de le lire dans cet ordre, en s'arrêtant après chaque section, délimitée par la présence de Jésus face à ces trois personnages. Voilà. Donc, Jean 11, au verset 20, on débute. « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » L'une des premières victimes dans nos épreuves, ce sont nos certitudes. Nos convictions, nos systèmes de pensée sont heurtés par la réalité nouvelle à laquelle on doit faire face. Ça ne rentre plus dans le cadre de ce qu'on croyait. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La femme est en train de, dans cette interpellation et la phrase qui va suivre, qu'une femme est en train de lutter avec une réalité nouvelle à laquelle elle n'était pas préparée. Qui peut l'être ? Son frère meurt d'une maladie. Mais le fait que si Jésus avait été là, tout aurait été évité. Alors elle tente de se raccrocher à ce qu'elle connaît de Jésus. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais. Elle répète une confession de foi. elle s'accroche à ce qu'elle sait. Et j'ai énormément de sympathie pour Marthe parce que très régulièrement dans mes difficultés, je cherche à comprendre. Je cherche à rattacher ce que je vis à des certitudes acquises auparavant. Et ça va faire comme pour moi passer l'épreuve par une grille d'analyse. En fait, je comprends ce qui se passe, donc je peux reprendre une forme de contrôle. Et souvent comme elle, je redis ce que je sais. Je sais que ceci est vrai, donc ça me rassure pour le futur. Et je sais que ça s'est produit dans le passé, donc je comprends pourquoi ça m'arrive maintenant. Et Jésus s'engage sur la voie prise par Marthe. Et il va la rencontrer sur le terrain de ses besoins. Voilà, on l'a lu. Ton frère ressuscitera. Elle a besoin de certitude, elle a besoin de comprendre, se raccrocher à une vérité solide. Et Jésus lui offre une promesse, une certitude. Mais sans préciser d'indication chronologique. Il ne lui dit pas quand ça se produira. Et c'est souvent peut-être une des choses les plus difficiles dans une épreuve. Mais quand donc cela cessera-t-il? Quand donc mon frère vivra à nouveau? Et Marthe essaye donc d'y répondre à ce fameux « quand ». À nouveau, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Je connais la vérité, Jésus, je suis allé au culte du dimanche, je connais ce que l'on croit. Vous voyez, j'ai souligné ce verbe introductif, à nouveau, je sais. Du grec, je ne sais pas si on le prononce juste, « eido », qui au sens propre veut dire « voir », percevoir, et donc de façon figurative comprendre. C'est une manière d'appréhender la réalité et de baser notre connaissance sur une approche rationnelle. Et je pense que notre foi court parfois le risque d'être détachée d'un réel encouragement. Notre foi peut parfois être une simple connaissance. Non pas que cette déclaration n'ait aucune valeur, loin de moi l'idée de penser telle chose, mais une leçon que l'on peut réciter sans que notre cœur soit touché par la révélation de la vérité, ça s'apparente à une marche par la vue et pas par la foi. Véritablement, ce ne sont parfois que des soutiens superficiels qui peuvent en fait véritablement nous laisser vides et déçus. Et encore une fois, Jésus, avec douceur, va rencontrer Marthe là où elle en est. Je suis la résurrection et la vie. Il ramène cette déclaration de foi à la source de la foi. Et il ne remplace pas le raisonnement. L'argument de Jésus n'est pas de dire « cesse de croire, arrête avec ton rationnel ». Il ne lui dit pas « il te suffit de croire, voilà ». Non, il recentre le raisonnement de Marthe sur la source. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira plus tard « gardons les regards sur Jésus ». C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. Jésus effectue une double action ici. En disant « je suis », il affirme être la présence qui rencontre Marie dans le vide de l'épreuve. Et c'est l'un des fameux sept « je suis » de l'évangile de Jean. « Je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis la résurrection. Et c'est évidemment là une référence très forte à la révélation que Moïse aura eue de l'Éternel, le grand je suis. Je suis Dieu, avec toi, présent. Il affirme donc non seulement sa divinité, la présence dans l'épreuve avec Marthe, mais il affirme être véritablement la réponse à son besoin précis. Ce n'est pas juste un dogme général. Tu recherches des certitudes. Je suis ce que tu recherches. Jésus opère donc un ministère ici de parole et de vérité pour recentrer la foi de Marthe sur le véritable objet de notre foi. Et j'aime à croire que Marthe entre dans cette proposition, puisqu'elle lui répond « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Plus je sais, plus de je vois, je crois. Je crois que tu es le Messie. » Et elle ne confesse plus une vérité générale sur la résurrection, elle confesse qui est Jésus. Première interaction. L'histoire se poursuit avec la sœur de Marthe. Après avoir dit cela, au verset 28, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici, elle te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie, dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va où ?» Marie arriva... On croit toujours savoir pour les autres. Hein. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens. » Et tu verras, Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je trouve assez extraordinaire que Marie prononce exactement les mêmes paroles que sa sœur, à l'exception de la deuxième phrase, mais cette première phrase est exactement ce que Marthe dit à Jésus. Après tout, la situation est la même, hein. Et on serait en droit d'attendre à ce que Jésus lui réponde exactement la même chose. Marie, ton frère ressuscitera. Après tout, ce ministère de parole de vérité a fonctionné pour Marthe. Et pourtant, la réponse de Jésus contraste d'autant plus fort que les paroles sont les mêmes. Jésus comprend que les besoins de Marie sont tout à fait différents, même si la situation est la même. Jésus pleura. Il ne dit rien. Par moments, la seule réponse appropriée à la souffrance, c'est le silence et les larmes. Par moments. Une leçon de théologie comme il l'a apportée à Marthe aurait certainement été désastreuse. Tout comme le silence et les larmes auraient été incompréhensibles pour Marthe. Mais Jésus semble comprendre ici que les besoins de Marie sont bien différents. Marthe avait besoin de comprendre. Marie a besoin d'être comprise. Comment est-ce possible que le même Jésus, face à la même situation, puisse réagir de façon si différente? Les larmes de Jésus ont souvent posé ici un problème, une question peut-être même théologique. Donc comment peut-il pleurer, exprimer sa tristesse, une forme de tristesse qui est à la limite du constat de l'échec? Il est Dieu, il peut tout. Il va d'ailleurs le prouver dans sa troisième interaction. On connaît la suite de l'histoire et il connaît la suite de l'histoire. Il faut nous rappeler en lisant l'évangile de Jean que celui qui raconte cette histoire a un objectif. Nous aider à croire que Jésus est le Messie. Et ça implique beaucoup de facettes. Numéro 1, le prologue de Jean, toute la première partie du chapitre numéro 1 de Jean établit beaucoup d'affirmations sur qui est Jésus. Oui, il est Dieu. Oui, il est roi d'Israël. Il est tout-puissant, sauveur du monde. Mais il est aussi humain. Il est pleinement homme. Et la même personne qui répond à Marthe par un grand « je suis » est la même personne qui chemine avec l'humanité déchue dans la misère. Et deux versets plus tôt, Jean nous offre un aperçu de la vie émotionnelle de Jésus. Il est dit qu'il fut profondément indigné et bouleversé. Il est donc d'une part indigné, c'est traduit par un adjectif en français, mais dans le texte grec, en fait, il s'agit d'un verbe qui désigne le fait d'être mu par la colère ou celui de réprimander sévèrement. Une réaction face à quelque chose. Et je crois que Jean montre ici un Jésus scandalisé par le mal. Il est en colère de voir l'intrusion de la mort dans la création bonne et parfaite de Dieu. Il est profondément indigné. D'autre part, il est bouleversé. Et là, à nouveau, c'est un verbe qui signifie agité, secoué. Au sens propre, c'est un verbe qui met en mouvement quelque chose de statique. Et donc, au sens figuré, ça parle d'une agitation émotionnelle, d'un dérangement. Jésus est dérangé. Il est secoué par ce qu'il voit. Si l'émotion du verbe précédent était celle de la colère, celui du verbe bouleversé est celle de la tristesse. Et dans d'autres histoires, dans les évangiles, on voit Jésus ému de compassion au contact des foules. Jésus rencontre Marie dans son besoin de consolation. Il lui offre donc un ministère de compassion. Et les larmes de Jésus sont vraies. Elles sont pour Marie, mais elles sont pour nous qui sommes témoins de cette histoire. Nous pouvons savoir et être assurés que Jésus connaît et comprend nos deuils, nos solitudes, nos trahisons. Il est une présence réconfortante, même au plus dur de l'épreuve. Donc Jésus est entièrement le grand Je suis, il est entièrement humain, il apporte un ministère de vérité et de compassion, mais l'histoire ne va pas en rester là. Jean place dans la bouche de la foule une interrogation qui va propulser Jésus dans cette troisième interaction. Quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas ?» Et derrière cette interrogation de son ennemi, on croit percevoir une certitude pour la foule. Jésus a rencontré son ennemi ultime. Tant que Jean avait un dernier souffle de vie, il y avait encore un espoir. Après tout, il a rendu la vue aux aveugles. Mais la mort a gagné. La mort a repris son droit. Qui donc peut avoir véritablement le pouvoir de faire revenir les morts à la vie ? Cette interrogation-là crée un suspense narratif, je l'appellerais. Que va-t-il se passer si Jésus se rend au tombeau de Lazare ? Peut-il vraiment gagner face à la mort ? Ou a-t-il rencontré un adversaire trop grand pour lui ? Ça pose évidemment la question pour Lazare, mais ça amène cette interrogation pour l'ensemble de l'humanité. Depuis que Dieu a déclaré que si nous mangeions du fruit de l'arbre de la connaissance du mal, certainement nous mourrions. Que va-t-il donc se passer ? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé et Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Cette dernière étape de l'histoire va permettre à Jésus d'entrer dans un nouveau ministère. celui de l'autorité et de la puissance. Mais dans ce ministère et dans cette interrogation, Jésus poursuit son enseignement auprès de ses disciples et de la foule et de nous, témoins, qui lisons encore cette histoire. Ce qu'il accomplit dans son autorité et sa puissance a deux finalités, un double sens. La gloire de Dieu et la foi du peuple de Dieu. Et j'aimerais préciser une chose avant de poursuivre. Je sais d'expérience que c'est quasiment impossible de voir la finalité ou le sens d'une épreuve quand on y est. Et j'espère qu'une chose, c'est que cela cesse. C'est impossible de se réjouir de ce que nos épreuves puissent servir à la gloire de Dieu et à ma foi. Ce serait presque cruel d'attendre cette réaction d'une personne en plein dans la souffrance. Et je ne pense pas que Jésus ici a un ministère de culpabilité. Il ne cherche pas à mettre la faute sur les personnes qui ne peuvent pas entendre et vivre cette réalité tout de suite. Mais c'est un appel à l'espérance. Derrière cet horizon bouché, la gloire de Dieu resplendira et notre force sera renforcée. Alors voyons ces deux enseignements. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus explique d'abord le cadre général de toute manifestation de puissance. Pour bien s'assurer de ne pas interpréter ou de commencer à placer des significations qu'il n'aurait pas été voulu, ce que Jésus fait a un sens et nous ne pouvons pas l'interpréter d'une autre manière que lui ne le fait. Marthe et la foule doivent réaliser une chose. Ce qu'ils s'apprêtent à voir, c'est avant tout la gloire de Dieu. Jésus ne dit pas « si tu crois à Marthe, tu verras la résurrection de ton frère ». Et pourtant, c'est ce qui va se produire. Ça n'aurait pas été un mensonge que de le dire. Mais il y a là un principe important. Les bienfaits de Dieu prennent toujours différentes formes et apparences. Mais ils ont toujours la même signification. Ils représentent Dieu et témoignent de sa nature. Ils représentent Dieu. Ce sont des signes qui pointent vers leur auteur. Avons-nous les yeux de la foi ? Jésus dit à Marthe, si tu crois, avons-nous les yeux de la foi pour voir derrière chaque bénédiction quotidienne la gloire de Dieu et son action ? Et puis de façon spécifique, ce qui n'est pas une généralité pour toutes les épreuves, mais Jésus pointe ici le sens de cette épreuve spécifique, qui est un rappel en fait de ce qu'il a dit à ses disciples. On n'a pas lu cette partie-là, mais au tout début, lorsqu'il apprend le message de la maladie de Lazare, il dit à ses disciples, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. La maladie n'aboutira pas à la mort. Et pourtant, il meurt. C'est une réalité, mais Jésus dit que ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est pas le mot final ou la conclusion de l'histoire. L'aboutissement, c'est la gloire du Fils de Dieu révélée. Car si Jésus était venu en se téléportant dans cette situation, sans laisser deux jours se passer, Lazare ne serait pas mort, la souffrance aurait été moindre, mais le « je suis la résurrection et la vie » serait resté une simple information. En mourant, Lazare rencontre, et tous les témoins avec lui rencontrent Jésus, résurrection et vie, incarné dans leur histoire. La mort ne sera jamais le dernier mot de nos épreuves. Elles aboutiront à la gloire de Dieu. Et puis le deuxième enseignement que Jésus donne avant son ministère de puissance se trouve dans la prière adressée à son Père, mais adressée d'une manière audible pour que tout le monde puisse entendre. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient. Le but de cette épreuve ne s'arrête pas à la gloire de Dieu. La foi est comme l'autre face d'une même pièce. Et c'est là encore une référence à l'affirmation de Jésus à ses disciples avant de partir pour Béthanie. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et nous ne pouvons absolument pas tirer la conclusion de ce que Jésus se réjouit de nos épreuves. Jamais. Il ne se réjouit pas de la mort et de son œuvre. Mais il peut faire éclater une victoire plus grande que celle de la mort, la victoire de la foi. Donc Jésus s'approche et il crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jésus est la parole. Jean a débuté son histoire en disant « La parole est Dieu ». Quelle histoire de son évangile pouvait mieux attester cette déclaration ? Jésus parle, il appelle, et sa voix porte au-delà de tous les obstacles. Elle brise tous les verrous et franchit toutes les montagnes. Jésus exerce son ministère d'autorité et de puissance, et Lazare rencontre Jésus. Révélé dans une puissance que même la mort ne peut pas contester. Il est plus grand. Et il est même trop grand pour certains. Parce que tout l'évangile de Jean a montré une tension croissante entre Jésus et les autorités religieuses qui ne tolèrent pas cette perte d'influence. Ils se sentent menacés par Jésus, ce qui va aboutir même à sa mort. Puisque directement après cette histoire, dans le même chapitre, les autorités religieuses prennent la décision de le faire exécuter. Autrement dit, Jean montre que Jésus, en venant chercher Lazare d'entre les morts, le fait au risque et au prix de sa propre vie. Il y a substitution. Et l'histoire nous le dit. Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Quelques jours plus tard, Jésus va rencontrer un autre tombeau. Et une pierre fermera l'entrée. L'anticipation ici est très claire. Et si Lazare peut sortir de son tombeau, c'est parce que Jésus a pris sa place dans la grotte. Il est rentré dans les ténèbres. Il a pris la place dans nos grottes, dans nos épreuves. Et c'est pourquoi au milieu de nos ténèbres, nous pouvons avoir foi et confiance de ce que nous ne sommes jamais seuls. Il a pris notre place dans nos cavernes, au plus profond de l'épreuve. Et même la mort n'a pas pu résister à son œuvre. Voilà les trois ministères. Et les épreuves peuvent durer toute une vie. Des gens meurent d'un cancer. Des famines frappent indifféremment jeunes, enfants, moins jeunes. Des guerres éclatent. Et en aucun cas, cette histoire, ce texte n'est une formule magique qui nous garantit la fin immédiate de toutes nos souffrances. Il est placé dans cet évangile surtout parce que Jean, encore une fois, a cet objectif de nous faire croire que Jésus est le Messie. Et cette histoire sert ce but. Et il montre justement la nature de ce Messie. Jésus est présent. Et il répond à nos besoins et il rencontre nos épreuves. Et beaucoup de souffrances sont absurdes, injustes, sans explication. Mais une certitude, Dieu, nous ne sommes pas seuls. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de compassion et un Dieu de puissance. Et il est possible que pour certains d'entre vous, ça a été mon cas il n'y a encore pas longtemps, nous ne soyons pas capables de le confesser, pas capables de le dire. C'est une espérance, c'est une lumière vers laquelle nous voulons lever les yeux. Parce que Jésus a véritablement pris notre place dans la tombe. Et je vais prier en conclusion de ce message pour que nous puissions aller à sa rencontre comme Marie, Marthe l'ont fait. Et pour que si nous ne sommes même plus en mesure d'aller à sa rencontre, nous accueillions son ministère dans nos situations. Et puis ensuite, sans transition, eh bien, nous vivrons cette réponse de façon musicale. Seigneur, tu es un Dieu d'une proximité inimaginable. En préparant ce message, je te visualisais en tant qu'homme ayant foulé cette terre, ayant pleuré avec Marie et la foule. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu es indigné, bouleversé, en larmes face au mal et à l'œuvre et aux conséquences de ce mal sur cette terre. Mais fort heureusement, Seigneur, tu n'es pas qu'un Dieu d'humanité. Tu es un Dieu d'autorité et de puissance et de vérité. Et tu permets que nos certitudes ne se perdent pas trop loin dans le doute et la confusion. Et tu redresses aussi, Seigneur, nos questions pour les réorienter à toi. Et Seigneur, tu permets aussi de rencontrer un Dieu d'intervention. Et j'aimerais prier pour notre communauté, là où nous nous trouvons actuellement, Seigneur, que nous soyons rencontrés par toi. Épreuve ou pas, Seigneur, un moment ou un autre, on se retrouve tous dans une grotte. On a besoin de tourner les yeux vers toi. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre maintenant alors que nous prenons ce chant, Seigneur, alors que nous déclarons qui tu es. Permets-nous de croire. Tu es le Messie. Et tu es présent. Amen.